France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
À 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. C'est par ce bref message que l'on a appris ce matin la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Son pontificat aura duré 12 ans. Lui, le premier pape venu d'Amérique du Sud, lui qui défendait les pauvres et détestait le faste, lui qui rappelait au bon souvenir des chefs d'État le sort des migrants, mais qui restait dogmatique aussi. Alors, c'est à vous de prendre la parole maintenant. Quelle image gardez-vous de lui, que vous soyez croyant ou pas, catholique ou pas? On peut aussi tout simplement parler de son bilan politique, car c'était un chef d'État qui cherchait à décentrer le regard de l'Occident. En tout cas, on le dit clivant, il a bousculé la hiérarchie catholique et a donné une place inédite aux femmes. Le pape disait qu'il voulait une église ouverte à tous, mais jusqu'où? Quel bilan en tirez-vous? C'est le téléphone sonne ce soir et vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon appel. Eh bien, écoutez, moi, c'est un immense hommage que je voudrais rendre au pape François. Je pense que c'était un des meilleurs papes que l'Église n'ait jamais eu. Je trouve que son message de paix, d'ouverture, de vraiment de chrétienté au sens le plus premier du terme était magnifique. Et je suis extrêmement triste qu'il soit parti. Je voudrais dire aussi, on ne le cite pas souvent, et c'est dommage, mais il appelait tous les jours la petite communauté chrétienne de Gaza pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir si elle arrivait à survivre. Et rien que ça, je trouve que c'est un témoignage de son humanité incroyable. Et j'espère que les chrétiens catholiques seront dignes de ce message-là. Voilà.
Bah merci pour cet hommage, Sophie. Il y a beaucoup de choses. Pour en parler avec vous, Isabelle de Gaulmin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes productrice des Matins de France Culture, ex-rédactrice en chef au quotidien La Croix. Merci d'être avec nous. Vous avez changé d'étage. Frédéric Mounier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
En ligne avec nous, ancien correspondant du quotidien La Croix à Rome, auteur de « Le pape François, une vie » publié aux éditions Presse du Châtelet, et bien sûr encore Bruno Duvic. Rebonsoir Bruno.
Rebonsoir Christelle.
Notre fil rouge Bruno, France Inter à Rome. Alors, Sophie disait, c'est un des meilleurs papes qu'elle a connu, il était porteur d'un message de paix et d'ouverture. Est-ce que c'est ça aussi que vous gardez en tête en premier, Isabelle de Gaulmin?
En tout cas, ce qu'elle manifeste, que Sophie manifeste, c'est peut-être la proximité du pape avec les gens. C'est-à-dire, c'est un pape qui avait vraiment conscience qu'il était important de s'exprimer de manière simple pour atteindre les gens directement. Et sans doute, c'est quelque chose qui lui venait d'Amérique latine. En Argentine, comme dans toute l'Amérique latine, les églises évangéliques sont assez fortes, prennent beaucoup de puissance et prennent beaucoup de place aujourd'hui, parce que justement, elles savent s'adresser directement aux fidèles et aux croyants. Et je pense que le pape a été marqué par ça. Il avait une manière de parler très populaire et qui finalement fonctionnait bien, avec des gestes qui impressionnaient les gens. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, pour beaucoup de gens, c'est ce pape qui a montré que l'essentiel quand on est chrétien, c'est d'être avec les pauvres.
Mmh. Très populaire, Frédéric Mounier.
Oui, ce pape a mis en œuvre ce qu'on appelle la théologie du peuple, c'est-à-dire qu'il est attentif aux besoins, aux désirs du peuple. Ça n'est pas la même chose que la théologie de la libération, car ce pape a toujours récusé l'usage de la violence, mais il a toujours été proche du peuple, que ce soit sur les questions politiques, économiques et sociales, mais aussi sur les questions religieuses. On sait que le pape était très attentif aux manifestations de la piété populaire, et qu'il comptait beaucoup là-dessus pour faire vivre l'Église.
Mmh. Mais Jean-Paul II, par exemple, était aussi un pape extrêmement populaire. Alors, quelle est la différence avec le pape François, Isabelle de Gaulmin?
La différence, déjà, c'est la durée de pontificat, parce que Jean-Paul II, c'est un très très long pontificat.
Oui, là, c'est 12 ans.
Jean-Paul II, c'est plus de 25 ans, et surtout, c'est... Il était aussi assez clivant, hein, comme le pape François a pu l'être. Il a crossé beaucoup de théologiens, notamment en Amérique latine, et c'est peut-être une popularité, on va dire, d'un message de puissance. Jean-Paul II, c'est vraiment celui qui est sorti de l'Église et a rempli les stades, quoi. Mmh. Il était là pour faire nombre, pour faire masse et pour dire que le catholicisme avait encore un avenir. La popularité du pape François, c'est plus de dire, ben voilà, chrétien dans la société aujourd'hui, finalement, c'est pas tant le nombre, mais c'est là où on est qui importe. Mmh. Et là où on est, c'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle les frontières, c'est-à-dire là où le monde va pas bien, là où il y a des migrants, là où il y a des pauvres, là où il y a des gens qui souffrent, etc. Et donc, il est vraiment allé dans ce monde-là avec cette idée d'aimer ce monde-là, d'y être complètement et de participer à ce monde. Jean-Paul II était plus sur une église qui avait beaucoup de superbe. Voilà.
Mmh. Bruno Duvic, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on dit souvent qu'il a décentré le regard de l'Occident au profit des périphéries?
Alors, ce qui résume ce qui vient d'être dit, c'est le dernier voyage du pape Ajaccio. Il y va sur le thème de la religiosité populaire, les processions populaires, l'attention aux saints, à la Vierge, etc. Il vient sur un colloque pour la religion populaire, il vient à Ajaccio plutôt qu'à Paris, au moment de Notre-Dame, là où il y a le banc et l'arrière-banc de l'Église et de la diplomatie mondiale. Et il va au contact des gens, il y a des gens en larmes, on lui fait bénir même une part de pizza pendant ce voyage à Ajaccio. Et voilà, ça résume ce pape-là qui préfère aller en Corse plutôt qu'à Paris. Donc effectivement, les périphéries du monde, les périphéries existentielles et le contact avec le peuple, la religiosité populaire.
Mmh. Allez, on va repartir au standard parce qu'il y a beaucoup d'appels ce soir et on accueille Elliot. Bonsoir Elliot.
Bonsoir.
Bienvenue Elliot. Est-ce que je peux dire ton âge?
Oui.
12 ans, c'est ça?
Oui.
Alors explique-nous ce que le pape François représente pour toi.
Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup dans sa vie. Il a aidé les pauvres, ceux qui étaient dans le besoin, déjà. Même quand il était prêtre, avant même d'être évêque.
Quand il était à Buenos Aires à l'époque?
Oui.
Et ça t'impressionne?
Oui.
Tu trouves qu'il a un discours un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, que c'était une voix qu'il fallait entendre?
Oui.
Il a défendu les pauvres.
Et puis, c'était aussi mon premier pape.
C'est beau ce que tu dis.
J'avais quelques mois quand il a été nommé.
Oui. Et tu te souviens, ton premier souvenir de lui? Il y a quelque chose qui t'a marqué ou pas?
Oui, c'était une photo dans un Okapi, un magazine. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment son sourire.
Son sourire, c'est-à-dire que tu penses qu'on se sentait proche de lui, c'est ça?
Oui.
Merci d'avoir témoigné, Elliot. Isabelle de Golemin, Elliot, il dit « c'était mon premier pape ». C'est quand même une phrase formidable.
C'est la génération François, en quelque sorte. Il y a la génération Jean-Paul II, génération Benoît XVI. Alors, ce dont il témoigne, c'est effectivement c'est le côté... c'est un personnage, le pape François. Comme l'était d'ailleurs Jean-Paul II, hein, qui avait une vie incroyable sous la guerre, de ce qu'il avait fait, la résistance, et puis après la résistance au communisme. C'était une personnalité. Le pape François, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a été donc effectivement auprès des pauvres, archevêque de Buenos Aires, où il a demandé à ses curés d'aller dans les bidonvilles. Mmh. Il avait déjà toute une vie, en fait, en quelque sorte, consacrée à suivre l'Évangile et à s'occuper de ce qu'il appelle les périphéries. C'était un caractère, une personnalité. Et c'est d'ailleurs un peu ça qu'au conclave, quand on l'a élu, c'est un peu ça que cherchaient les cardinaux. Parce que c'est vrai que Benoît XVI avait montré un peu les limites d'un pape très intellectuel, brillant intellectuellement.
Brillant mais théologien, mais pas du tout proche
du terrain. Proche des on s'est dit, voilà quelqu'un qui est proche du terrain, qui sait ce que c'est que d'être pasteur, c'est-à-dire d'avoir, et d'ailleurs tout son pontificat l'a bien montré quand il disait « qui suis-je pour juger ?» Parce que, voilà, moi je connais bien, je pense que les gens sont dans des situations compliquées, on ne peut pas les juger de manière théorique, il faut tenir compte de la vie des gens. Et ça, c'est vraiment le rôle du pasteur. Mmh. Donc il a ramené l'Église de point de vue un peu plus pastoral, de façon à quitter ce côté finalement très légal qui était quand même l'évolution de l'Église depuis Jean-Paul II et Benoît XVI, qui consistait à dire « ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, et un peu d'écraser les croyants sous des préceptes et des, voilà, de dire vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Donc plus proche du terrain, un personnage proche des pauvres qui disait les choses de manière assez simple, Frédéric Mounier.
Oui, puis cette proximité du terrain s'est également manifestée sur le plan international. Il faut se rappeler que ce pape est allé à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, alors même que les violences interethniques et interreligieuses étaient extrêmement importantes. Il est allé au Soudan également. Il est allé en Irak à l'époque où personne ne voyageait à la fin du confinement. Ce pape va sur les lignes de fracture du monde. Il n'a jamais hésité, y compris jusque dans ce dernier voyage dans l'extrême Asie, où chacun de nous, observateurs du Vatican, nous étions très très inquiets sur sa capacité à voyager dans des conditions aussi difficiles. Et pourtant, il l'a fait jusqu'au bout.
Et oui, c'était l'an dernier, hein. Il était déjà très fatigué. Il avait fait une tournée de 12 jours en Asie. Je crois que c'est son plus long voyage pontifical, Frédéric Mounier.
Oui, puis ça a été un voyage qui, par exemple, a été très très fort sur le plan des relations avec l'islam. Ça nous a permis de nous rappeler que le plus grand pays musulman au monde, eh ben, c'est l'Indonésie. Et donc, le pape a inauguré un souterrain, un tunnel entre la cathédrale de la capitale de l'Indonésie et puis la grande mosquée. Et donc là, il y avait un signal très très fort, très significatif de ce dialogue interreligieux qu'il a toujours voulu construire à tout prix et pour lequel il a été parfois beaucoup contesté.
C'est l'une des marques de son pontificat, ce dialogue interreligieux, Isabelle de Golemin.
Oui, alors lui, il appellerait ça un dialogue de fraternité. D'ailleurs, il avait signé une lettre, enfin un texte avec le grand moufti Al-Azhar, qui s'appelle autour de la fraternité. Voilà, qu'est-ce que la fraternité pour les musulmans? Qu'est-ce que la fraternité pour les chrétiens? Et de fait, il est allé très loin de ce point de vue-là, parce que vous savez même que ce qu'on appelle une de ses encycliques, un de ses grands textes, qui s'appelle Fratelli Tutti, donc tous frères, commence dans l'introduction. Il commence par citer le responsable d'Al-Azhar, et donc il s'adresse à des catholiques, mais il commence par citer un musulman. Donc c'est vrai qu'il est allé très loin dans ce dialogue, parce qu'il croyait que c'était un des défis aujourd'hui, c'est de ne pas être sur une posture de guerre de religion ou de conflit de civilisation, mais plutôt de reconnaître ce qui était commun entre les chrétiens et les musulmans.
Bonsoir Juliette.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, vous nous appelez de Bretagne.
Oui, merci. Oui, effectivement. Alors moi, je suis profondément et résolument athée, et même très éloignée des religions. Mais j'avoue que l'annonce de la mort de ce pape m'a fait quelque chose, car il a toujours véhiculé des idées humanistes, écologistes, pour les réfugiés, par exemple, pour Gaza. Et sur l'écologie, il a dit beaucoup de choses également. Et ce sont des idées dont nous avons tant besoin en ce moment, en ces temps de retour de la haine et des idées d'extrême droite. Et voilà, donc ça m'a fait quelque chose et je redoute un peu, pas mal même, que son successeur soit moins progressiste que lui.
Merci Juliette. Bruno Duvic sur l'écologie, c'est vrai que le pape, il a eu cette encyclique qui restera quand même dans les annales.
Alors, sur l'écologie, et ça permet de faire le lien avec l'intervention d'Eliott tout à l'heure, au fond, Isabelle de Golemin disait « Génération François ». On peut se poser la question, est-ce qu'il y aura une Génération François ? Et peut-être que sur l'écologie, il y a quelque chose de fort qui a été semé, si j'ose dire. On dit souvent à propos des migrants, il a parlé dans le vide. Sur l'écologie, dans la foulée de son encyclique, dans la foulée de ses différents discours et interventions, il y a une foultitude d'associations, d'initiatives qui sont nées dans le monde catholique. Il a vraiment impulsé quelque chose et amené des gens à l'Église catholique par ce biais-là. Pour le reste, y aura-t-il une génération François ? J'ai rencontré récemment un prêtre pour les 20 ans de la mort de Jean-Paul II qui me disait, moi, ma vocation, c'est les JMJ. Elles sont nées, et les JMJ, c'était Jean-Paul II. Est-ce que François a créé des vocations ? Est-ce qu'il y aura des petits Eliott qui continueront sur le chemin de la foi ? On n'en est pas sûr pour l'instant. Alors, l'Église n'est évidemment pas une multinationale qui vend des yaourts, mais on peut regarder des chiffres. Les chiffres, en termes de fidèles dans le monde, ils n'ont pas bougé sous François. Il n'a pas enrayé la déchristianisation de l'Occident, et le dynamisme en Asie ou en Afrique n'a pas compensé cela. Donc voilà, y aura-t-il une génération François ?
C'est une question que je pose aussi à nos autres invités, Frédéric Mounier.
Écoutez, moi je pense qu'effectivement, François a permis de rendre l'Église crédible aux yeux de très nombreux secteurs de l'opinion, aux yeux desquels l'Église était disqualifiée depuis longtemps. Parce que précisément, elle était vécue comme une Église du défendu, du permis, de l'autorisé, une Église du péché, une Église en quelque sorte comme un poste de douane, ce que le pape François a toujours voulu contester au profit d'un hôpital de campagne. Donc maintenant, est-ce que ces gens-là vont rester identifiés comme une génération François? Ça reste une question ouverte, mais en tout cas, je pense qu'il y a une trace de François qui restera très très importante parmi des franges très très importantes de la population. Alors, c'est vrai que Bruno Duvic a évoqué le témoignage d'un prêtre. Beaucoup de prêtres ont été secoués par François. Ils n'ont pas toujours bien compris les positions de François lorsque, notamment, François a appelé à la décléricalisation, a appelé à lutter contre le cléricalisme. De fait, ça a déstabilisé beaucoup de prêtres. On peut peut-être risquer une hypothèse selon laquelle François était peut-être plus populaire auprès des laïcs que auprès des prêtres. C'est une question ouverte.
Isabelle de Golemin.
Oui, j'irais même plus loin. Je dirais qu'il était presque plus populaire auprès des non-croyants, ou en tout cas des catholiques lointains, enfin ceux qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, que des catholiques très fidèles qui ont pu être, notamment en Europe, hein, qui ont pu être un peu choqués par certains propos. C'est vrai que c'est un pape qui a pu être clivant, parce qu'il critiquait beaucoup des attitudes des catholiques, il était très dur avec eux. Et puis en plus, il voyait ça, effectivement, de son Argentine, d'un pays pauvre, d'une grande pauvreté, ou écrasé par la mondialisation. Donc il a eu un discours aussi économique très anticapitaliste, ce qui a pu aussi choquer des catholiques européens. C'est pour ça qu'effectivement...
Vous dites qu'il était plus populaire auprès des laïcs.
Peut-être plus populaire, et alors, même pas des laïcs, enfin, je dirais des non-croyants, quoi. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aucun pape n'a pu enrayer le déclin du catholicisme. C'est bien au-delà d'un pape, c'est bien au-delà d'une personne. C'est une tendance lourde de fond dans notre société, y compris d'ailleurs en Afrique ou en Amérique latine, où les évangéliques gagnent du terrain par rapport aux catholiques, même si ça continue à être important, même si en Afrique, la progression continue être importante. Donc, aucun pape, ni Jean-Paul II, aussi populaire qu'il soit, ni François, ni Benoît XVI, ni Paul VI avant, etc., n'a réussi à enrayer ce passage qu'on est en train de vivre d'une société chrétienne à une société où il y a beaucoup de religions qui sont plus ou moins en concurrence, et où du coup les croyants, ils ne naissent pas chrétiens, mais ils le deviennent, et puis ils vont où ils veulent, et ça ne va plus de soi d'être catholique.
On repart au standard. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Alors moi, je suis athée également, ce qui fait qu'a priori, je n'aurai pas de jugement à porter sur les églises, sauf que ce sont des institutions qui, dont le rôle ne peut être ignoré, parce qu'elles jouent sur nous, surtout quand elles font des bêtises. Et à cet égard, je voudrais dire que je pense que le pape François, qui semble avoir fait bien son boulot, a malgré tout manqué le coche, me semble-t-il, en ne supprimant pas le anostatat. Quand pas au célibat des prêtres, c'est un péché d'orgueil imbécile, insupportable, qui ne peut conduire
un péché d'orgueil.
Selon moi, qui ne peut conduire qu'à la pathologie, qu'à des pathologies, comme on l'a vu. Alors, je pense donc qu'il a manqué le coche de ce côté-là. J'espère que le suivant, lui, ne le manquera pas.
Alors, le célibat des prêtres, on en parle, Frédéric Mounier.
Écoutez, je crois qu'il faut se garder d'abord de faire un lien entre le célibat des prêtres et l'épidémie d'abus sexuels, abus de pouvoir, abus d'autorité qu'on a vu dans l'Église. Ça n'a rien à voir, puisqu'on sait bien que la plupart des abus sont commis par des personnes qui ont l'air d'être de bons pères de famille et qui, en tout cas, sont mariés et ont une épouse dans leur lit. Donc la question n'est pas là. La question est une question de l'engagement. La question de l'engagement, l'Église aujourd'hui propose un engagement quasiment éternel. Un engagement pour toute la vie, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile, même aujourd'hui, non seulement à vivre, mais à concevoir. Et je pense que c'est le principal obstacle aujourd'hui à de nouvelles vocations. Et puis, il faut rappeler également qu'il y a de nombreuses églises chrétiennes dans le monde pour lesquelles le célibat n'existe pas et qui rencontrent les mêmes difficultés de recrutement, d'appel des vocations, etc. Donc la question du célibat, effectivement, peut être ouverte, parce que chacun sait qu'il ne s'agit que d'une discipline discipline qui est récente et qui date du XIIe siècle. Mais ça ne serait pas en aucun cas la solution à toutes les difficultés que vit l'Église.
Mmh. Isabelle de Gaulmin, est-ce que c'est un signe de conservatisme ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que voilà, le fait qu'on puisse avoir des prêtres mariés, d'ailleurs dans l'Église catholique, il y en a, parce que vous savez que dans l'Église catholique, il y a un certain nombre d'églises orientales qui ont rejoint le catholicisme, où les prêtres se marient. Donc voilà, il y a des prêtres mariés dans les églises orientales. Je ne suis pas sûre, je pense qu'effectivement, c'est pas la solution, c'est pas comme ça que l'Église refleurirait, comme on pourrait dire, mais par contre, ça permettrait sans doute à des gens de vivre mieux, là, au contraire, leur vocation de prêtre, parce que c'est vrai que c'est très dur, il y a une grande solitude, et puis que voilà, les choses ne sont pas, à mon avis, pas incompatibles. En tout cas, on aurait une plus grande diversité, on n'aurait pas que des prêtres célibataires, mais des prêtres mariés, pourquoi pas des prêtres femmes. Je pense pas que ce soit ni moins bien ni mieux, mais je pense que pour les gens, ça serait plus facile à vivre. Alors, est-ce que c'est une marque de conservatisme ? C'est vrai que sa main a tremblé quelque part, parce qu'il avait fait un synode, il y a eu une assemblée pour que les catholiques discutent sur l'Amazonie, et beaucoup d'évêques d'Amazonie ont dit mais il faut qu'on puisse ordonner des hommes mariés prêtres parce qu'on en manque, l'Amazonie c'est immense et on n'est pas assez nombreux. Mmh. Et le prêtre étant tellement important dans l'Église catholique qu'ils avaient besoin de ça. C'était quand même une majorité d'évêques, excusez-moi, qui avaient demandé, donc tout le monde s'est dit bon, il a accepté la discussion, ce qui a déjà été intéressant, parce qu'avant on n'en parlait pas, c'était un peu un tabou, mais par contre il n'est pas allé jusque-là, il a sans doute pensé qu'il n'y avait pas un consensus dans toute l'Église catholique, et puis peut-être que lui était fondamentalement pour le célibat.
Bruno Duvic, est-ce que vous diriez vous aussi que sa main a tremblé sur le célibat des prêtres ?
Il a incontestablement, me semble-t-il, reculé sur cette question, sans doute par peur des fractures de l'Église. Il était obligé de tenir compte de l'état de l'Église. Je vous prends un autre exemple sur le diaconat des femmes. Est-ce que des femmes peuvent devenir diacres ? En débat au synode, cette grande assemblée, pour dire très très simplement, de démocratisation de l'Église qui s'est tenue en 2023-2024, les différents chapitres du synode ont été votés à une majorité écrasante. Celle évoquant la place des femmes dans l'Église a été évoquée, de mémoire je crois, le chapitre a été adopté à 60% seulement. Honnêtement, ce chapitre n'allait pas très loin, encourageant à développer la place des femmes dans l'Église, ça n'allait guère plus loin que ça. Donc il était obligé de tenir compte des fractures de l'Église. Certes, il a essayé de la bousculer, de la faire avancer comme ça, mais il y a un moment, il est aussi responsable de l'unité de l'Église et il ne peut pas faire toutes les réformes possibles et imaginables.
Il y a quand même une femme qui est devenue ministre. Ça, c'était une petite révolution.
Il y a eu des petites révolutions, et je vous parlais de ce synode. Il y avait des femmes qui avaient le droit de vote, le droit de parole, pardon, ça fait bizarre de dire cela, mais au même titre que des cardinaux, que des évêques, et qui ont pris de l'assurance dans l'échange au fil de cette discussion. C'était très intéressant d'entendre des témoignages de femmes disant, au début, je ne savais pas trop où me situer, et puis petit à petit, j'ai pris la parole. Et à l'inverse, de cardinaux disant, je ne savais pas trop comment me comporter avec telle ou telle personne, et puis finalement ça s'est bien passé. Un dernier mot sur les femmes, et je laisse la parole aux autres invités. En tout cas en France et dans un certain nombre de pays, sans les femmes, il y a des églises qui ferment. Qui fait le caté, s'occupe des personnes âgées, des malades au fil de la semaine ou de tenir les permanences, ce sont des femmes. Donc clairement, l'ampleur de leur rôle n'est pas reconnue à sa juste mesure.
Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno, Isabelle de Gaulmin ?
Oui, alors en plus moi comme femme, je veux dire que je suis quand même toujours un peu choquée de le peu de place faite aux femmes dans les organes de pouvoir. En fait, c'est ça le problème. C'est pas place aux femmes, c'est que les femmes n'ont pas le pouvoir.
Laisser des femmes entrer dans l'exécutif du Vatican, c'était en soit quand même une...
Oui, alors on peut dire que c'est une révolution formidable, il y a 10 femmes. Enfin, je veux dire, on est quand même en 2025, si vous voulez. La révolution, c'est une ouverture. Il montre, effectivement, il fait un geste, mais je crois que c'est surtout un problème de pouvoir. C'est-à-dire, tant que tout le pouvoir sera concentré dans les mains des prêtres, d'ailleurs ce que le pape critique lui-même, le cléricalisme, on n'arrivera pas à bouger. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui peut-être critiqueraient si on allait vers le diaconat des femmes, même pas la prêtrise. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui seraient contents, beaucoup de femmes, et peut-être faut-il prendre en compte un certain nombre de femmes aujourd'hui qui sont un peu déçues et qui du coup quittent l'Église en se disant cette Église, elle ne bougera jamais, elle ne nous reconnaîtra jamais une place digne.
Mais il me semble qu'il avait appelé à dépasser la mentalité machiste au sein de l'Église.
Oui,
des mots.
C'est quand même... en tout cas, on peut dire que ça avance lentement.
Oui, très, mais c'est ça. Très lentement. Certains disent qu'il parlait bien, il parlait beaucoup, mais c'était pas forcément suivi des faits derrière.
Disons que là-dessus, il aurait pu aller plus loin. En tout cas, le diaconat féminin, qui est quand même quelque chose qui est dans la tradition de l'Église, hein. Il y avait des femmes diacres au premier temps de l'Église. C'était une petite ouverture, une petite avancée qui ne voulait pas dire la prêtrise des femmes. C'était juste leur reconnaître, finalement, une place bien déterminée dans l'Église. Après, c'est le problème plus des prêtres que des hommes. C'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas prêtres, ils n'ont pas plus de pouvoir que les femmes dans l'Église.
Et est-ce que vous pensez, Frédéric Mounier, qu'il aurait pu aller plus loin aussi sur les migrants ?
Ah, sur les migrants, écoutez, il est déjà allé très très loin, puisque ça lui a valu beaucoup d'opposition et beaucoup d'ennemis. Hein. Beaucoup de catholiques convaincus considèrent aujourd'hui que les migrants doivent rester chez eux, et qu'il faut même les renvoyer chez eux. Donc la question est vraiment très très tendue. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur ce qu'a dit Bruno Duvic, parce que c'était très très juste, sur la question de l'unité, et le terme technique, c'est la communion dans l'Église. C'est-à-dire que le pape avait une conscience aiguë du fait qu'il est garant de la communion. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a certaines réformes qu'il n'a pas pu ou qu'il n'a pas voulu proposer, parce qu'il savait qu'il y aurait un schisme derrière. Souvenons-nous de la difficulté de réception que nous avons connue pour l'accueil des personnes homosexuelles. Le pape a publié un texte pour dire qu'il était possible, à certaines conditions, de bénir ces personnes homosexuelles, y compris lorsqu'elles vivent en couple. Eh bien, ça a suscité sur l'ensemble du continent africain une révolte très très importante des cardinaux africains, des évêques, des prêtres, et tout le monde était contre. Et donc là, à l'époque où l'Église catholique est la seule institution au monde qui soit encore régulée par un centre, c'est une institution mondiale qui est régulée par un centre, le pape a eu une grande conscience de cette fragilité-là.
Allez, on repart au standard. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir. Alors moi, comme vos intervenants précédents, je suis pas croyante non plus. Néanmoins, je suis quand même l'actualité des différents dignitaires religieux, parce que malheureusement, je dirais, ils ont quand même de plus en plus d'influence sur nos vies. Et à cet égard, je voulais savoir si la visite vraiment très récente de J.D. Vance ne risque pas d'avoir une influence sur la nomination du pape et sur, moi je le crains, un intégrisme catholique qui prendrait le pouvoir, entre guillemets, sur la religion catholique.
On va commencer par vous, Bruno Duvic.
Alors, ce qui est intéressant après à propos de J.D. Vance, l'Église américaine, effectivement, il y a un courant conservateur de plus en plus puissant et tout est lié, c'est-à-dire que il y a eu une baisse des dons à l'Église à cause des affaires des abus, et de riches fidèles conservateurs ont contribué à refinancer l'Église américaine et à lui impulser ce tournant conservateur. Donc il y a aussi ça dans le paysage. Ensuite, un tournant radicalement conservateur après François, moi je n'y crois pas, mais ça n'est que mon analyse, à cause du mode de scrutin, entre autres, lors du conclave. C'est-à-dire qu'il faut que le pape soit élu aux deux tiers des suffrages, des 135, il y en a 135 cardinaux électeurs à ce stade. Et donc, pour réunir les deux tiers du conclave, les deux tiers des cardinaux électeurs, ça ne peut pas être le tenant d'une ligne radicale, qu'elle soit radicale progressiste ou radicale conservatrice, me semble-t-il.
Pas de ligne radicale à suivre, Isabelle de Golemin, vous pensez la même chose que Bruno? Je crois qu'il a nommé 80% des actuels cardinaux, quand
c'est
même,
ça. Donc,
le pape François.
On voit mal. Après, personne n'avait prévu non plus la nomination. Enfin, l'élection de François par un conclave qui était plutôt conservateur, puisque nommé par Jean-Paul II et Benoît XVI. Donc, il faut se méfier des prévisions, effectivement. Après, c'est intéressant ce que disait Isabelle, votre auditrice, parce que, effectivement, ce pontificat, il a commencé avec Lampedusa, qui est un geste énorme. Le premier voyage de ce pape, c'est d'aller voir les migrants. Bon, c'est quand même... Il n'est pas allé dans une grande cathédrale, etc. Il voit les migrants. Et donc, il dit la Méditerranée est devenue un cimetière, les migrants, c'est un problème, etc. Et il finit par la réception de Vance, qui justement sur lequel c'est complètement
au niveau incroyable. Du symbole, c'est assez fou, quoi.
Donc c'est aussi l'échec de François quelque part, j'aurais envie de dire, si on voit pas simplement aux États-Unis, mais dans toute l'Europe, les pays se refermer par rapport aux migrants. C'est-à-dire que son discours assez prophétique, il a pas imprimé, et il a peut-être pas non plus tenu compte des difficultés des Européens à accueillir ce monde-là. Peut-être, en tout cas, il n'est pas arrivé à convaincre. Et au contraire, par rapport aux migrants, on n'arrête pas de durcir les frontières de partout. Donc c'est vrai que le symbole Lampedusa Vince, c'est assez parlant, me semble-t-il, pour ce pontificat.
Vous dites la même chose, Bruno Duvic. C'est vrai que c'est assez étonnant, quoi.
Absolument, les deux images sont radicalement opposées. Est-ce que ça résume le pontificat? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ce sont deux images frappantes et deux images d'une certaine division là encore de l'Église entre ce courant très ouvert et un courant beaucoup plus radical et plus conservateur.
Mais il n'a pas réussi à convaincre, comme disait Isabelle de Golemin. Les chefs d'État autour de lui. Il a parlé des migrants durant l'ensemble de son pontificat. Et aujourd'hui, on a l'impression effectivement d'un grand bond en arrière.
Quel est son rôle? Quel est le rôle d'un dignitaire religieux, au fond? Est-ce que ça n'est pas de fixer un cap? Et puis ensuite, j'ai envie de dire, prend qui veut et prend ce que veut, mais il n'a pas une armée pour contraindre, je ne sais pas, quelques pays à accueillir des migrants ou des
oui.
Donc le moyen d'action du Vatican, ça reste du soft power, de l'influence religieuse et un discours moral. Ça ne va pas au-delà, mais c'est quand même important.
Frédéric Mounier.
Oui, c'est aussi des gestes symboliques. Il faut se souvenir que ce pape s'est rendu à Jérusalem, qu'il a fait arrêter son convoi à l'entrée à Bethléem devant le mur de séparation et qu'il s'est arrêté en prière devant ce mur de séparation, de même qu'il s'était arrêté devant le mur des Lamentations peu de temps avant. Donc il y a aussi des gestes symboliques. Et puis on peut se demander jusqu'à quel point des prophètes... ce que les prophètes prophétisent n'est pas toujours réalisé, mais ça laisse une trace et c'est ça qui compte.
J'en reviens à l'ouverture tout à l'heure, alors on parlait des femmes, on disait que c'était plus ou moins réussi. Il y a l'homosexualité aussi, Isabelle de Golemin.
Bah là, c'est vrai que...
Avec cette bénédiction autorisée.
Je pense qu'effectivement, le pape a fait, en tout cas dans sa parole, quand il a dit qui suis-je pour juger, c'était vraiment par rapport à une personne homosexuelle. Et ça a quand même beaucoup compté, ça a beaucoup, effectivement, marqué son pontificat, le fait de dire je ne suis pas là pour juger, mais pour accompagner, ce qui est, comme disait très bien Frédéric Mounier tout à l'heure.
Qui suis-je pour juger, il disait.
C'est sa conception de l'Église. Après, c'est vrai que là où peut-être les Occidentaux ont pris une claque, c'est qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils n'avaient pas du tout la même conception de l'homosexualité que les catholiques africains. Où là-bas, c'est encore interdit, voire pénalisé, voire très réprouvé par tous les étages de la société. Et c'est la difficulté, effectivement, d'avancer sur ces sujets quand on a une
Il n'a pas toujours été compris là-dessus.
Il n'a pas été compris. Et puis surtout, je pense que là, il y a 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Il faut bien voir ce que c'est. Et en plus, il y en a de plus en plus dans le Sud. Donc, le pape ne peut pas être complètement contre en tout cas, il ne peut pas imposer, sans doute, au continent africain et asiatique, une vision de l'homosexualité qui n'est partagée que dans l'Occident. Là, il y a un sacré gap. Vous savez qu'il y a une autre église qui est un peu comme l'église catholique, essaye de maintenir l'unité, qui est l'église anglicane, où il y a vraiment une fracture sur ce sujet, sur le sujet des femmes, effectivement, entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que c'est vrai que les cultures ne sont pas les mêmes, donc c'est compliqué pour un pape de maintenir l'unité. Et je pense que le prochain pape, je pense que les cardinaux vont prendre quelqu'un qui fera peut-être mieux l'unité, qui pourra peut-être apaiser un peu quand même des tensions qui ont été créées par le pape François, qui a beaucoup parlé et qui a finalement accepté le débat sur beaucoup de sujets, mais sans vraiment dire où est-ce qu'il voulait aller. Et ça fait que dans l'Église, il y a quand même pas mal de tensions aujourd'hui.
Alors justement, le prochain. Bonsoir Frédéric.
Oui,
nous vous écoutons.
Oui, j'aurais voulu faire un parallèle avec Barack Obama, quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié avant qu'il ait manette, un intellectuel, et qu'on a beaucoup pour ce qu'il était, peut-être plus que pour ce qu'il a fait. Et j'ai un peu le même sentiment avec le pape François. Et on sait ce qui s'est passé après Barack Obama, ce retour de bâton et Donald Trump. Et je me demandais si on était... menacé de la même chose après le pape François.
Alors, il y a deux choses intéressantes dans ce que vous dites. Le parallèle avec Barack Obama, Isabelle de Golemin.
Oui, c'est
intéressant, on n'y avait pas pensé.
Parce que, effectivement, je n'aurais pas pensé. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, en tout cas dans plutôt l'Église occidentale, mais pas que, un retour de la tradition. Qui finalement n'est pas dû à l'influence de tel ou tel pape, mais qui est plus dû au fait que, par exemple en Occident, l'Église est devenue très minoritaire. Et du coup, les catholiques, les jeunes catholiques notamment, ont besoin de peut-être plus marquer leurs différences, de dire qu'ils sont vraiment catholiques, d'affirmer des choses. Et donc, ont tendance, on va dire, à avoir une attitude, je ne dirais pas plus conservatrice, mais plus identitaire. Voilà. Et ensuite, ça peut donner lieu effectivement à une attitude plus conservatrice pour certains. Et c'est vrai que le pape, il est pris dans ce mouvement. C'est-à-dire que quelque part, les jeunes aujourd'hui qui se font baptiser, qui se sont fait baptiser là à Pâques, les jeunes prêtres sont dans une attitude sans doute plus conservatrice que lui, parce que voilà, ils sont dans un monde qui est plus compliqué aussi pour les catholiques. Ils sont très en France, vous savez, la pratique dominicale aujourd'hui, elle concerne même pas 5% des Français, donc c'est rien du tout. Donc être catholique aujourd'hui, c'est pas facile. Donc on a tendance à plus affirmer ce pourquoi on croit et peut-être à plus marquer la différence et avoir une vision, voilà, plus conservatrice, au sens où on rappelle comme ça une église plus dogmatique.
Est-ce qu'il peut y avoir un retour de bâton, comme le disait notre auditeur Frédéric Mounier, à votre avis ?
Écoutez, en tout cas, le pape François a pris toutes les précautions nécessaires pour que ce ne soit pas le cas, puisque sur les 135 cardinaux électeurs, il en a nommé 108. Et en insistant beaucoup sur des cardinaux venant des périphéries, venant des zones les plus fragiles, les plus vulnérables, etc. Donc, a priori, le pape a pris cette disposition pour que son successeur trace le même chemin que lui. Mais vous savez qu'il y a un adage à Rome qui dit que quiconque rentre pape au conclave en sort cardinal. Donc, nous sommes devant une incertitude totale.
Bruno Duvic.
Un des mots-clés de ce pontificat, le pape voulait que les réformes qu'il a impulsées deviennent irréversibles. Oui. Est-ce que ce sera le cas ? Et au fond, ça, c'est en cela qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec Obama. On parlait de fiducia supplicans, de cette déclaration sur l'accueil des fidèles homosexuels. Elle est largement inappliquée. Isabelle de Gaulmin le rappelait, les réactions du Sud, enfin l'Église africaine a publié un communiqué commun pour dire on n'appliquera pas. Donc il y a un certain nombre de réformes qui ont été impulsées. Est-ce que elles seront réellement appliquées ? Est-ce qu'elles seront maintenues ? Ou est-ce qu'il y aura un retour en arrière ? Il y a effectivement ce risque-là.
Le conclave, c'est dans combien de temps, Bruno ?
Alors, c'est théoriquement 15 à 20 jours après la mort du pape, sachant que Benoît XVI a un peu réformé les règles. Si tous les cardinaux sont à Rome, ils peuvent lancer le conclave, mais de toute façon, ce ne sera pas avant 9 jours, puisqu'il y a les 9 jours de deuil. Les médias italiens évoquent à vue de nez, disons, la date du 10 mai.
Voilà, ce sera donc pour le 10 mai. Merci infiniment Bruno Duvic, France Inter à Rome. Vous avez passé toute la journée avec nous. Merci Frédéric Mounier, ancien correspondant du quotidien La Croix à Rome. Et merci aussi à vous Isabelle de Gaulmin qui était en studio avec nous, productrice des Matins de France Culture et ex-rédactrice en chef au quotidien La Croix. Bonne soirée à vous tous.